Et nous, Dieu fait bien les choses, nous allons continuer dans la droite ligne de tout ce que nous avons lu, chanté et entendu ce matin. Et du coup, je vous invite à tourner quelques pages pour arriver à la seconde épître de Paul à Timothée. Donc c'est après le livre des Actes, de Timothée au chapitre 2. Et nous lirons les versets 1 à 7. De Timothée 2, 1 à 7. Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance, qui seront capables, à leur tour, de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Comprends ce que je te dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Jusqu'ici notre lecture. À la fin de son ministère, alors qu'il est ressuscité et qu'il s'apprête à monter au ciel, Jésus laisse un tout dernier mot à ses apôtres. Il leur dit « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole de Jésus est rapportée par Luc, l'un des quatre évangélistes et l'auteur du livre des Actes que nous avons lu tout à l'heure, dans le premier chapitre. Et il s'agit là de la toute dernière exhortation de Jésus, sa dernière promesse, alors qu'il est sur le départ. Ce mandat est adressé par Jésus aux apôtres. Et ils iront effectivement à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en tant que témoins de Jésus-Christ. Ils seront ainsi les messagers d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'on a lue tout à l'heure. Jésus, fils de Dieu, a vécu sur cette terre pendant une trentaine d'années. Il a vécu la même vie que nous. Il exerçait simplement un autre métier, celui de charpentier, et son environnement était un peu moins technologique que le nôtre aujourd'hui. Comme nous, Jésus a ressenti la faim, la tristesse, la joie, la peine. Comme nous, il est né sur cette terre et il y est mort. Mais contrairement à nous, Jésus a vécu une vie parfaite, sans penser ni faire aucun mal. Il est Dieu, Dieu fait homme, et c'est pour cette raison qu'en étant crucifié sur une croix par des hommes, il s'est ainsi offert en sacrifice pour l'humanité tout entière. Jésus est mort pour nous donner accès à Dieu et à une vie éternelle en sa présence. Voilà le message de cette bonne nouvelle que vont répondre les apôtres. Nous avons désormais accès à Dieu. Par extension, cet appel à transmettre l'Évangile nous est également adressé. Nous avons une mission à accomplir, transmettre nous aussi cette bonne nouvelle. Cette mission ne va pas sans son lot de souffrances, mais les forces nécessaires sont à trouver en Dieu. Et en fin de compte, cette mission offre deux perspectives encourageantes. D'une part, l'assurance du succès, et d'autre part, la promesse d'un accompagnement. Alors que nous puissions, le dernier jour de notre vie, affirmer « mission accomplie ». Voilà ma prière ce matin. Paul, ce grand apôtre, écrit plusieurs lettres au premier siècle de notre ère. Ces lettres sont destinées le plus souvent à des églises, ces églises qui émergent autour de la Méditerranée, après la Pentecôte, ces églises fondées par des disciples de Jésus. Ces églises sont implantées à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et encore plus loin, en Turquie, en Grèce actuelle. Et elles reçoivent de la part de Paul des visites, et de nombreux conseils. Ces conseils sont transmis dans ses lettres, destinées à être lues par de nombreux chrétiens, et plus largement dans d'autres églises. Il en va ainsi des lettres aux habitants des villes de Rome, d'Éphèse ou de Corinthe, pour ne citer qu'elles. Mais Paul écrit également quelques lettres à quelques proches collaborateurs. Une pour Tite et deux pour Timothée. En tout cas, ce sont celles qui nous sont parvenues jusqu'à nous. Cette deuxième lettre à Timothée, que nous avons lue, est rédigée alors que Paul est probablement prisonnier à Rome et envisage sa mort prochainement. Sa captivité semble sévère, et ce, même s'il peut recevoir des visiteurs, et même s'il a la liberté d'écrire, de recevoir du courrier. Paul est bien éprouvé, tant par la vieillesse que par son statut de prisonnier. Il sait sa mort proche, il est opprimé par des personnes qui s'opposent à lui, il est attristé par des proches qui l'ont abandonné. Mais c'est une sorte de testament qu'il laisse là, à son fidèle disciple Timothée. Bien sûr, Paul se doute que cette lettre personnelle adressée à Timothée sera lue bien après par d'autres membres des églises et encore peut-être aujourd'hui par nous. La renommée de Paul parmi les premiers chrétiens est telle que ses lettres sont lues avec beaucoup d'attention et font preuve d'autorité pour régler les conflits, pour promouvoir les bons enseignements et bannir tout ce qui est discours futile ou déviant. Et ces discours déviants sont alors principalement ceux de faux docteurs. Des personnes se lèvent, se proclament enseignants à cette époque, sans être formées ni reconnues comme telles, et se permettent de propager de fausses doctrines. Paul les considère comme une véritable menace. Ces faux enseignants s'écartent de la vérité. Et le danger est d'autant plus grand qu'ils appartiennent certainement à l'Église. Ils sont eux-mêmes au cœur de l'Église, peut-être même avec un statut d'ancien, par exemple. Et les fausses doctrines qu'ils enseignent porte aussi bien sur le refus de croire en la résurrection future des croyants, le fait de prôner un certain ascétisme sexuel ou alimentaire, et de comprendre d'une mauvaise manière, de faire un mauvais usage de la loi de Moïse. Timothée doit donc faire taire ses faux enseignements. Voilà la recommandation générale de Paul dans ses lettres à son disciple. Alors, qui est Timothée ? On le découvre dans le livre des Actes. C'est un collaborateur de Paul, il a appris à ses côtés, il l'a accompagné dans son ministère. Et dans ces deux lettres adressées à Timothée, nous en apprenons un peu davantage, sa mère s'appelle Eunice, sa grand-mère Loïs. Et en ce qui concerne son CV, Timothée a reçu une formation sérieuse dans le judaïsme. Timothée, c'est l'un des principaux collaborateurs, l'un des principaux soutiens et l'un des principaux successeurs de Paul, jusqu'au bout, et contrairement à d'autres. Il est avec lui. Timothée poursuit, après la mort de Paul, la tâche qui est celle de transmettre l'Évangile. Cette mission que Paul laisse à Timothée est au centre de cette seconde épître que nous avons lue. Encore plus que dans la première, Timothée doit accepter de souffrir comme Paul, de veiller sur son enseignement et de demeurer dans ce qu'il a appris. Transmettre l'Évangile. Voilà la mission laissée par Paul à Timothée. Au verset 2. Du chapitre 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. C'est l'idée d'une grande chaîne, avec des maillons à n'en plus finir. Transmettre l'Évangile. Voilà la mission à accomplir. Timothée a entendu de la part de Paul. Aussi bien dans le sens oral du terme, Paul a enseigné de vive voix en présentiel à Timothée, que dans un sens plus large, Timothée a pu lire déjà certaines lettres écrites par Paul et destinées aux églises. Timothée a ainsi entendu bien des enseignements de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Je vous propose de s'arrêter un instant sur cette formule un peu pompeuse par laquelle Paul s'adresse à Timothée au début de la lettre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il se décrit ainsi alors qu'en même temps il appelle Timothée d'une manière tout affectueuse, mon enfant bien-aimé? Sans doute que le titre imposant d'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, est là pour rappeler d'abord la source de l'autorité apostolique de Paul. Elle provient bien de la volonté de Dieu, et l'enseignement est celui de Jésus-Christ. Dieu a institué Paul apôtre, et Paul parle de la part de Jésus-Christ. Même pour Paul, se rappeler cela n'est pas inutile alors qu'il est en train de souffrir. S'il en est là, c'est aussi en vertu de la volonté de Dieu. Et ainsi, les églises que Timothée servira sauront que c'est l'apôtre Paul qui parle quand Timothée les exhorte. Timothée a entendu de la part de Paul de nombreux enseignements, et ce, en présence de beaucoup de témoins. Cela ne s'est pas fait rapidement, une heure de temps en temps, via un Skype ou un MOOC. Non, Timothée a eu le bénéfice d'être au contact de Paul pendant de nombreuses heures, de nombreux jours. Des gens sont là pour en témoigner. C'est important de le noter pour prendre conscience du sérieux de la formation que Timothée a reçue. Timothée est réellement le disciple de Paul. Il a été à bonne école. Son enseignement est ainsi de qualité. Il doit être pris au sérieux, malgré son âge relativement jeune, une quarantaine d'années, lors de la première lettre, peut-être un peu plus lors de la seconde. De nombreuses personnes sont là pour attester, ainsi, de la fidélité de Timothée à l'enseignement transmis par Paul. Et cela, dans ce premier siècle où, déjà, les fake news se transmettent à la vitesse de l'éclair, au sein même des églises. Cette affirmation de la solidité de la formation reçue par Timothée a un point considérable, une vraie valeur. Timothée apporte la vérité à la suite de Paul et de Jésus-Christ, ni plus ni moins que la vérité. Et Timothée a cette mission de transmettre l'Évangile à des personnes qu'il choisira avec soin. Timothée est recruteur avant l'heure. Une grille de compétences est même établie par Paul. Deux critères priment avant tout dans le choix de ses nouveaux collaborateurs. Ces personnes doivent être fidèles, dignes de confiance. Et capable. Capable de quoi ? De transmettre, à leur tour et de manière plus large, cette bonne nouvelle. Et cette capacité à enseigner a plusieurs composantes. Il s'agit d'abord de pouvoir comprendre la vérité biblique, de pouvoir la reformuler, de faire preuve d'une certaine autorité et d'un désir ardent de communiquer, d'avoir une piété saine, une conduite honorable, tout un programme très exigeant. Il s'agit certainement d'anciens qu'il faut former dans ces églises encore toutes récentes pour qu'à leur tour, ces anciens puissent transmettre cet enseignement véridique. Timothée doit donc faire preuve de discernement. Il y a tellement de faux docteurs qui rôdent et qui font leur business en arnaquant les foules à partir de discours erronés que Timothée doit veiller à choisir des personnes de qualité qui respecteront le message transmis et seront à leur tour porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Certains ont vu là un soutien de la thèse de la succession apostolique. Or ici, c'est plutôt une transmission fidèle de l'enseignement de Paul qui est en jeu, non pas une transmission d'une fonction ou d'un statut. On ne parle d'aucun statut, d'aucun rôle dans ce texte. On parle de fidélité, de capacité à. Le diplôme ne vaut pas tout. On regarde d'abord aux compétences humaines et aux spirituelles. Peut-être un dernier point à noter dans cette transmission. Si l'on a Paul en première ligne, ce que tu as entendu de moi, Timothée en deuxième ligne, confie-le, puis des personnes fidèles et capables d'enseigner en troisième ligne, à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'enseigner, cela s'ouvre ensuite beaucoup plus largement à d'autres, a-t-il indiqué. Qui sont ces autres ? Ce ne sont pas seulement les chrétiens, ceux qui ont déjà la foi ou fréquentent une église, mais il s'agit de chacun et chacune. Tout homme, toute femme est potentiellement un auditeur de l'Évangile. Un auditeur et plus tard un messager de cette bonne nouvelle. Ce n'est pas réservé aux seuls apôtres, pasteurs ou anciens. La dimension missionnaire a ici toute sa place. Voilà la mission de chacun d'entre nous, transmettre l'Évangile. Nous avons tous reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ d'une manière différente. Certains l'ont reçue de leurs parents ou grands-parents, d'autres de leurs pasteurs, d'autres encore d'amis qui ont eu ce désir de communiquer leur foi. Nous avons peut-être été au bénéfice de ces personnes qui nous ont transmis l'Évangile. À nous, à présent, de la transmettre à nos enfants, à nos parents, à nos proches, aux personnes qui sont autour de nous. Nous repartons cet été avec Fanny pour une 7e saison de Musique Maestro, séjour de vacances artistiques pour enfants et ados. Et quand je regarde loin en arrière, lorsque j'étais moi-même ado, les colos que j'ai faites ont une importance considérable dans mon parcours avec Dieu. Elles ont renforcé ma foi, elles m'ont boosté dans un quotidien qui n'était pas toujours très rose. Elles m'ont permis de prendre confiance en Dieu. Pourquoi ? Parce que des gars et des filles un peu plus âgés que moi ont témoigné. Ils ont témoigné de leur foi, de leur expérience avec Dieu, sans en éluder les difficultés, mais en mettant l'accent sur l'accompagnement de Dieu et les bénédictions concrètes qui découlent d'une vie avec lui. Je ne vous parle pas là de concepts théoriques ou théologiques. En tant qu'ado, ça ne m'aurait pas forcément accroché. Mais de témoignages de vie de gens simples, comme vous et moi, si vous le permettez, qui n'étaient ni pasteurs ni théologiens, mais qui m'ont permis de comprendre que la foi en Dieu se vit, se développe et se transmet. C'est véritablement de cette même foi que Paul parle à Timothée dans cette lettre dont nous avons lu un extrait. Une foi qui se transmet dans un enseignement solide, autrefois qui était basé sur les paroles de Jésus et des premiers apôtres, et aujourd'hui qui est basé sur la Bible, ces paroles orales ayant été depuis mises à l'écrit. On est tous porteurs de la parole. Certains en feront leur métier, Dieu les appelle spécifiquement à cela, d'autres non. Mais Dieu nous appelle tous, dès lors que nous avons reçu cette bonne nouvelle et l'avons fait nôtre, à la propager autour de nous, à continuer cette œuvre initiée par Paul et transmise à Timothée. Dieu nous appelle tous à le servir, fidèlement. Lorsque nous découvrons un trésor, nous avons deux choix, le garder secrètement et jalousement pour nous, et en profiter, certes, mais seul. Ou alors le propager, le partager, le répandre autour de nous. Nous en profiterons ainsi davantage, car nous le ferons vivre avec d'autres. Nous en jouirons avec nos proches, et notre joie sera d'autant plus complète. L'Évangile est un trésor à transmettre autour de nous. Servir Christ fidèlement et partager autour de nous notre foi, transmettre cette heureuse nouvelle, ne se fait pas sans effort et sans souffrance. Paul le sait, lui qui écrit depuis sa prison. Au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Paul sait ce que souffrir signifie. Rappelons-nous, avant même d'être chrétien, il faisait souffrir les autres. C'en était même son passe-temps favori. Oui, Paul était persécuteur, infligeant des souffrances aux premiers chrétiens, les martyrisant, les terrorisant. Paul, un terroriste de la première heure, sûrement. Mais Dieu a arraché Paul de la terreur. Il l'a éclairé, littéralement et spirituellement. Il s'est révélé à lui, et Paul a été par la suite le premier défenseur de la vérité et de la liberté en Jésus-Christ. Mais dès cet épisode fondateur de la vie chrétienne de Paul, sur le chemin de Damas, Paul a souffert physiquement. Et là, dans sa prison, Paul souffre encore. Il connaît donc bien mieux que quiconque la souffrance, en tout cas bien mieux que moi. Pour Paul, servir la cause de l'Évangile implique de prendre sa part de souffrance. C'est ainsi qu'il le formule à Timothée. Mais prendre notre part, c'est rappeler qu'il y a des parts pour les autres, que nous ne souffrons pas seuls. C'est prendre une part, celle qui nous revient, et partager le reste du gâteau avec ceux qui vivent la même expérience que nous. Si Paul est évidemment sensible à sa propre condition de prisonnier, à la peine qu'il endure, il sait également que d'autres croyants subissent aussi des épreuves. Il élargit même son regard en évoquant les souffrances quotidiennes de tous ceux qui effectuent un travail pénible, comme l'on dirait aujourd'hui. Et un peu plus loin, au verset 11 et 12, il rappelle les souffrances de Christ lui-même. Timothée est donc en bonne compagnie. Il ne souffre pas seul. C'est un bel encouragement pour nous. Oui, nous devons souffrir dans notre annonce de l'Évangile. Qui n'a jamais subi injures, crachats, moqueries, ignorance, isolement peut-être ? Et encore, qu'est-ce par rapport à nos frères et sœurs persécutés dans la foi ? Je discutais le week-end dernier avec un responsable jeunesse de Portes Ouvertes, cette association qui œuvre en direction des chrétiens persécutés et dont nous avons une antenne dans notre église. Ce responsable de Portes Ouvertes nous racontait une histoire, celle d'un homme en Birmanie, parti avec une douzaine de jeunes chrétiens pour vivre un camp d'ados, une sorte de mini-convention jeunesse baptiste. Pendant plusieurs jours, ils passaient du temps ensemble, à louer Dieu, à prier, à lire la Bible et à la méditer. Et un matin, alors qu'ils étaient rassemblés pour vivre un culte tous les 13, comme les autres matins, des hommes armés ont fait irruption et ont tué chacun des 12 garçons que cet homme accompagnait. À la fin, ils ont pointé une arme en direction de la tête de cet homme et ils ont tiré. Par la grâce de Dieu, cet homme a survécu. Bien que défiguré et après un long séjour à l'hôpital, lorsqu'on l'a encouragé à prendre sa retraite, à prendre du temps pour lui, à prendre du repos, il a répondu « J'ai promis de le suivre, alors je continue l'appel que Dieu m'a adressé et je pars recommencer un nouveau camp de jeunes afin qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu et soient sauvés. » J'ai parfois l'impression de souffrir, mais lorsque j'entends des histoires comme celle de cet homme, je relativise très vite. Finalement, je ne souffre pas. Pas là, en France, avec la liberté qui est la mienne. Regardons la chance que nous avons ce matin de nous réunir librement à Paris, tout comme dimanche dernier, tout comme le dimanche d'avant. Alors que Dieu m'appelle à transmettre cet évangile, quelle est ma réponse ? Seigneur, je suis un peu timide, je n'ai pas trop parlé, je ne connais pas encore très bien ma Bible, je suis encore tout jeune, j'ai peur des brimades, des rejets. C'est peut-être le moment ce matin de prendre mes responsabilités et de répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, je te suivrai et partout où tu y voudras que j'aille, j'irai en tant que messager de la bonne nouvelle. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Premier enseignement, pour remplir ma mission au service de Jésus-Christ, je dois me débarrasser des affaires de la vie. Fanny, c'est fini. Je ne remplirai plus le lave-vaisselle. Je cesserai de passer l'aspirateur. Je dois m'en consacrer entièrement à Dieu. Tu m'excuseras bien sûr, mission divine, avant tout. Pas sûr que ça passe. Pas sûr que Dieu approuve non plus ce choix. En revanche, m'inquiéter du lendemain, tout miser sur l'apparence, passer un temps énorme sur les réseaux sociaux, et au passage, il paraîtrait que les 50-60 ans passent davantage de temps connectés que les 25-35, à bon entendeur. Ce sont certainement des tâches qui me demandent de l'énergie, du temps, de la disponibilité et sont sans aucune valeur ajoutée par rapport à ma mission, transmettre l'évangile. Où sont mes priorités ? Le soldat ou le combattant, c'est celui qui se concentre sur la mission qui lui est confiée. C'est aussi celui qui est attaché à son chef dans la discipline militaire. Dans une autre lettre, celle adressée à l'église d'Éphèse, Paul dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Pour Timothée comme pour nous, c'est la vérité et l'amour pour Dieu qui doivent être au premier plan. Et cela doit nous conduire à nous dépouiller de tout ce qui nous empêcherait d'être fidèles dans notre engagement. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Verset 5. Deuxième enseignement, pour remplir ma mission au service de Jésus-Christ et éviter ainsi la disqualification, je dois concourir selon les règles. Alors, quelles règles ? Pour Timothée, ces règles sont les grands repères posés par Jésus lui-même dans son enseignement. L'amour, le renoncement à soi, la fidélité dans l'enseignement, la persévérance. Jésus dit en Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. » Un second, cependant, lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Gardons ces commandements ancrés en nous et mettons-les en pratique au quotidien. Et nous concourons ainsi selon les règles. Dieu est un Père qui nous laisse libres dans le cadre qu'il nous donne. Respectons simplement ce cadre, vivons notre foi, guidés par l'amour de Dieu et de notre prochain. Et au verset 6, le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir de sa part des fruits. Troisième enseignement, pour remplir ma mission au service de Jésus-Christ, je dois me donner de la peine. Il y a l'idée ici qui revient à d'autres endroits, d'un dur labeur. Il y a un lien réel entre la sueur versée et le résultat. Pour Timothée, pas de fruits dans le ministère sans s'adonner à la tâche, avec fermeté, en consentant au sacrifice nécessaire. Finalement, ce message de Paul adressé à Timothée, souffre avec moi, sous-entend d'une part la souffrance que nous pouvons éprouver en tant que chrétiens, d'autre part l'effort que nous devons fournir pour être à la hauteur des enjeux. Ces trois illustrations utilisées par Paul, soldat, athlète, cultivateur, soulignent le fait que notre mission s'accompagne clairement d'efforts, d'affermissement dans la volonté, de persévérance, de choix et de priorité à se donner. Tout un programme. Alors, où puiser les forces nécessaires à ces efforts à fournir? Dans la grâce, en Jésus-Christ. Pour transmettre l'Évangile efficacement et avoir un rôle actif au service de Jésus-Christ, Paul donne son conseil numéro 1 à Timothée. Sois puissant, ou puise tes forces, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. De Timothée 2, verset 1. La force est là, disponible, dans la grâce, en Jésus-Christ. Il s'agit simplement de consentir à cette grâce, la grâce du Seigneur, de vouloir, d'accepter, de s'exposer à l'action de cette grâce. Aucun effort à fournir, là, en l'occurrence, pour recevoir cette force de la part du Seigneur. Simplement la lui demander et nous préparer à la recevoir. Rappelons-nous cette toute dernière exhortation de Jésus-Christ à ses disciples avant de monter au ciel. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. Dès lors que nous devenons serviteurs du Christ, que nous nous engageons à le suivre fidèlement, reconnaissant tout ce qu'il a fait pour nous et en premier lieu le don de sa vie, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y réside, réellement. Voilà où se trouvent les forces dont nous avons besoin pour répondre à l'appel de Dieu. Par sa grâce, le Seigneur nous équipe et nous fortifie. Alors de quelle force est-ce que je dispose personnellement dès à présent pour répondre efficacement à l'appel de Dieu, au ministère qu'il me confie, à la tâche qu'il me donne? J'ai certainement déjà certaines compétences développées dans mon expérience passée ou à l'école. Je dispose peut-être d'endurance, de persévérance pour aller au bout de la mission qui m'est offerte. Peut-être ai-je déjà acquis une certaine aisance dans tel ou tel domaine, ce qui me rassure et me permet de faire face. Alors merci Seigneur pour toutes ces forces déjà là en moi. Mais il m'en manque, certainement, j'en ai besoin de davantage. Certaines forces doivent être un peu plus développées, d'autres manquent à l'appel. Or j'en ai besoin pour servir Christ autour de moi, pour transmettre l'Évangile, pour tenir bon au combat et agir, souffrir avec persévérance et confiance. Alors que Dieu me les donne, que Dieu nous donne ses forces. Soyons puissants dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Puisons nos forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ressortons-en fortifiés, à même de se mettre en marche pour l'Évangile. Cette mission de transmettre l'Évangile peut quelquefois effrayer. Suis-je à la hauteur? Comment pourrais-je? Timothée est réconforté par Paul à ce sujet. Ces témoins dont nous avons parlé accompagnent Timothée. Il a autour de lui une foule de sœurs et de frères dans la foi. Et nous sommes nous aussi accompagnés. Regardons ce matin, notre présence même dans cette église prouve que nous formons cette communauté de sœurs, de frères dans la foi, unis autour de Christ. La Bible est la vérité, nous le croyons, et c'est ensemble que nous souhaitons marcher derrière Christ et transmettre son évangile. Nous participerons dans une dizaine de jours à la fête de la musique. C'est une des manières pour être porteur de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Transmettre l'évangile demande des efforts de notre part, un véritable engagement, et cela ne se fait pas sans coût. Ok, nous l'avons dit. Mais soyons sûrs d'une chose, Dieu nous promet la réussite. Alors que nous avons tiré de ces versets tout à l'heure l'engagement que Dieu nous demande, portons désormais l'attention sur les succès qu'ils annoncent. Nous nous dépouillons de notre ancienne nature, faisant de notre mieux pour placer Christ en priorité numéro une dans notre vie et marcher à sa suite. Alors, soyons-en sûrs, nous lui donnons satisfaction. Nous tentons du mieux que possible d'aimer Dieu ainsi que notre prochain. Alors, soyons-en sûrs, nous serons couronnés. Nous nous donnons de la peine, nous bataillons au quotidien, nous suons à longueur de journée. Alors, soyons-en sûrs, nous serons les premiers à recevoir notre part. Oui, soyons-en sûrs d'une chose, Dieu nous promet la réussite. Le job de mes rêves, un appart bien à moi, un peu plus d'argent, une famille réconciliée, un mari, une femme, un ami. Est-ce cela la réussite que Dieu nous promet ? Non, c'est pas ça que nous avons lu. Dieu nous promet bien davantage. Avoir Christ comme guide, au quotidien, pour chacun de nos pas. Il nous devance, oui, juste là, devant nous. Le salut offert par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le salut offert et la vie éternelle à ses côtés. Et la joie de voir des personnes se tourner vers lui et lui confier à leur tour leur vie à jamais. Voilà la perspective encourageante associée à cette bonne nouvelle qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Cette section se termine par une promesse. Au verset 7, le Seigneur nous donnera de l'intelligence en tout. Tout cela nous ramène toujours à la grâce, au don de Dieu. Et je vous invite à terminer cette réflexion en priant à partir de ce septième verset du deuxième chapitre de la seconde épître à Timothée. Comprends ce que je dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Prions. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour la venue de ton Fils, Jésus, sur terre, pour le prix qu'il a payé pour nous racheter et nous offrir une vie avec toi, dès maintenant et à jamais. Tu nous appelles non seulement à te suivre, mais à remplir une mission bien spécifique, transmettre l'Évangile, cette bonne nouvelle. Ne pas la garder pour nous, mais la communiquer autour de nous. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force nécessaire pour répandre ce message de paix, de vérité et d'amour, et ce malgré les obstacles que nous pourrons rencontrer. Et que nous soyons fiers de proclamer, à la fin de notre vie, mission accomplie. Amen.